Depuis Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 5 février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'Iran est le principal requérant de la relance du PGAC. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le leader de la révolution islamique d'Iran approuve l'amnistie massive et la commutation des peines pour un grand nombre de détenus liés aux récentes émeutes. Iran-Cuba, la politique US de sanctions et d'intimidation est vouée à l'échec, insiste Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne. Et puis, la réforme du système judiciaire israélien, des milliers de manifestants anti-Netanyahou à Tel Aviv. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique et des fêtes marquant le mois musulman de Rajab, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, approuve l'amnistie massive et la commutation des peines pour un grand nombre de détenus liés aux récentes émeutes dans le pays. En réponse à une lettre du président du pouvoir judiciaire iranien, le leader de la révolution islamique approuve l'amnistie des détenus liés aux récentes émeutes. Il a également approuvé la commutation pour les détenus liés à des infractions non intentionnelles. Les détenus qui n'ont pas commis d'espionnage, de meurtre, de destruction de biens publics et qui ne sont pas affiliés à des agences de renseignements étrangers seront libérés. Aussi est-il nécessaire que les détenus n'aient pas de plaignants privés. Les détenus sous conditions de regret et d'obligation de ne pas commettre d'infractions liées à la sécurité seront libérés. Pendant ce temps, d'autres détenus pour infractions non intentionnelles seront libérés sous certaines conditions. Cette amnistie massive intervient à l'approche de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la politique d'intimidation et de sanctions des États-Unis a échoué. Hossein Amir Abdollahian a tenu ses déclarations à l'occasion d'une rencontre avec son homologue cubain à La Havane. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé la condamnation par Téhéran de l'ingérence étrangère dans les affaires de Cuba et du rôle des États-Unis dans les émeutes de 2021. Se référant également aux récents troubles en Iran, Amir Abdollahian a déclaré que les États-Unis et certains autres États occidentaux ciblent les pays souverains en leur imposant simultanément des sanctions et en provoquant des émeutes. Le ministre cubain des Affaires étrangères a pour sa part dénoncé les sanctions unilatérales et l'ingérence étrangère. Bruno Rodriguez a déclaré que le renforcement des liens avec l'Iran est une priorité pour son pays. Amir Abdollahian a également rencontré plus tôt le président cubain. Il est en tournée, un déplacement qu'il a déjà conduit en Mauritanie, au Nicaragua et au Venezuela. L'Iran a fustigé l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, pour son rapport partiel et partial de mercredi qui a soulevé des inquiétudes concernant les modifications apportées à l'équipement d'un site nucléaire. Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré que le rapport de l'IAEA était basé sur une erreur commise par un inspecteur lors d'une visite à l'usine de Fordo. Téhéran a écrit à l'agence pour expliquer l'erreur de l'inspecteur, mais l'agence l'a rendue publique. Enfin, pour la cinquième semaine consécutive, des rassemblements ont eu lieu ce samedi 4 février dans 20 villes israéliennes à Tel Aviv. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées en scandant des slogans contre le cabinet d'extrême droite du régime israélien et son programme qui, selon eux, représente une menace. Une foule immense a envahi la rue centrale de Tel Aviv pour condamner la politique du Premier ministre Netanyahou. Sur les pancartes, on pouvait lire que le nouveau gouvernement est une menace pour la paix mondiale et qu'il est un criminel. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. L'Iran est le principal requérant de la relance du PGAC. Le négociateur en chef sur le dossier nucléaire affirme que l'Iran est la principale partie requérante dans l'équation du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, qui aspire à relancer les négociations autour du pacte multilatéral. Ali Borelikhani, qui est également vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la politique extérieure, a déclaré lors d'une interview dans l'émission Insight de Press TV samedi 4 février « Ce sont les États-Unis et leurs alliés européens qui devraient prouver leurs engagements envers l'accord et rattraper leurs erreurs dès que possible. » Téhéran est le principal requérant de la relance des pourparlers sur l'accord nucléaire de Vienne et les parties occidentales doivent être redevables à l'Iran, a-t-il souligné. Cependant, l'expérience du plan global d'action conjointe PGAC nous a appris, primo, à ne jamais faire confiance à l'ennemi. C'est fondamental dans la diplomatie iranienne, mais le dossier du nucléaire a remis en évidence cette réalité. Secondo, il ne faut jamais compter sur des étrangers. Nous devons exploiter et profiter un maximum des atouts de l'accord nucléaire dans le sens de nos propres intérêts et du développement national, a-t-il dit. Par conséquent, l'accord lui-même ne devrait pas faire obstacle au développement de notre pays. Les Occidentaux, tant européens qu'américains, ont ces dernières années prouvé que si leurs intérêts l'exigeaient, ils ne se soumettraient à aucune limite morale. Dans ce contexte, le durcissement des sanctions occidentales visant l'alimentation, les médicaments et d'autres besoins humanitaires en dit long sur cette attitude. Ces produits de première nécessité ne devraient faire l'objet d'aucun embargo à l'échelle internationale, a-t-il insisté. À partir de maintenant, nous sommes la partie requérante et les Américains constituent la partie opposée. Ce sont eux qui devraient prouver leurs engagements dans la pratique s'ils veulent revenir au PGAC, comme ils disent. Et il en va de même pour les Européens. Ce sont les Européens qui ont brisé à plusieurs reprises leurs engagements envers notre nation depuis que les États-Unis se sont retirés du PGAC, a-t-il déploré. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, les États-Unis et leurs alliés européens ne respectent pas leurs promesses et ne prêtent aucune attention aux principes. L'Iran a toujours respecté ses engagements dans le cadre du PGAC et s'attend à ce que les autres parties de l'accord respectent également leurs engagements, a indiqué M. Borrelli Kani. L'Iran n'est pas indifférent au non-respect des autres parties, mais ne perturbe pas pour autant le processus de relance de l'accord. Nous suivons sérieusement les pourparlers sur la suppression des sanctions et espérons que les efforts porteront leurs fruits, a-t-il ajouté. Dans le domaine du nucléaire, nous remarquons que l'Iran a fait des progrès considérables année après année et maintenant sont nombreux ceux qui admettent que l'Iran est une puissance dynamique. Par conséquent, si les Américains veulent reconnaître le développement des capacités nucléaires de l'Iran, ils n'ont pratiquement aucune justification pour leur agissement contre notre pays. Au contraire, ils nous accusent de fabriquer des bombes atomiques pour couvrir leurs actes malveillants, a-t-il fait remarquer. Les négociations sur la levée des sanctions se poursuivent en tenant compte des lignes rouges de la République islamique d'Iran et dans le but de garantir les intérêts et les droits de la nation iranienne. L'Iran prend la négociation avec beaucoup de sérieux. Le gouvernement et le leader de la révolution islamique ont spécifiquement souligné que le sort du pays ne devait pas être subordonné à ces négociations. Ceci étant, les négociations sur le nucléaire ont constitué une partie importante de la stratégie du gouvernement et nous n'observons aucun retard ou ignorance de notre part. Le président Raïsi en personne suit avec assiduité le dossier, a-t-il ajouté. Cependant, il arrive à l'autre partie de bifurquer et d'évoquer des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Téhéran est prêt à négocier dans le cadre de l'accord précédent. À l'heure où je parle, les négociateurs iraniens poursuivent leur échange. J'espère que tous ces efforts aboutiront à des résultats convaincants, a-t-il souhaité. L'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de l'Iran, qui prend aussi racine dans nos croyances religieuses, est de tenir nos engagements. Par contre, les Américains et le système pro-occidental ne prêtent aucune attention à ce principe de base et empruntent une autre voie chaque fois que leurs intérêts l'exigent. Dans le cas du PGAC, la République islamique d'Iran a tenu tous ses engagements et s'attend à ce que la partie occidentale fasse de même. Bien entendu, l'Iran n'agit pas passivement en dépit de leur non-engagement. Ce qui est important, c'est que l'Iran ne foule pas aux pieds ses engagements. La décision de l'Iran de réduire ses obligations envers le PGAC était fondée sur les dispositions de l'accord lui-même. Et l'Iran a toujours tenu ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. Dans le même temps, les opposants à l'Iran et à la révolution islamique, comme les États-Unis et le régime sioniste, font toujours avancer leurs plans de manière illégitime et illégale. Cela montre à quel point l'Occident et ses alliés tentent de déformer les réalités. Le poids et la position de l'Iran dans les affaires régionales et internationales ont considérablement augmenté. En guise d'illustration, l'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, est largement due aux besoins des membres de l'organisation d'utiliser les potentiels de l'Iran. Bien sûr, nous en tirons profit de notre côté. Pour ce qui concerne le mécanisme des BRICS, l'approche est la même. Nous voyons que les membres de ce groupe accueillent favorablement notre présence, compte tenu de notre poids sur l'échiquier international, s'est-il félicité. Il convient de mentionner que l'Iran et les cinq autres parties de l'accord nucléaire ont repris les pourparlers à Vienne le 29 novembre 2022 après une pause de 5 mois marquant le premier cycle de négociations sous l'administration du président Ebrahim Raïsi et le 7e au total. L'Iran soutient que sa présence au pourparlers vise à faire lever les sanctions américaines, ce qui à son tour garantirait un retour des États-Unis à l'accord nucléaire. Les États-Unis, qui ne sont pas autorisés à participer directement au pourparlers à la suite de leur retrait unilatéral du PGAC en 2018, affirment qu'ils sont prêts à annuler leur retrait et à abroger leur politique de pression maximale contre l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la menace d'Israël et les actes de terrorisme contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran ne sont pas choses nouvelles et sont très fréquentes. Cette fois, une action donc, de drone donc, a été déjouée par la République islamique d'Iran dans le ciel d'Isfahan, donc dans le centre du pays. Alors l'ironie, c'est que Israël se permet d'admettre ouvertement son application dans ces crimes. Par ailleurs, la République islamique d'Iran s'est réservé le droit donc, de réagir fermement à cet acte. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'ambassadeur d'Iran à l'ONU, Amir Saidi Ravani, a souligné le rôle d'Israël dans une attaque terroriste de drones déjoués contre un atelier militaire dans la ville d'Ispahan, au centre de l'Iran, affirmant que la République islamique se réserve le droit de répondre fermement à toute menace ou action répréhensible du régime de Tel Aviv. Monsieur Amir Saidi Ravani a adressé une lettre mercredi au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU quelques jours après que le système de défense aérienne iranien a réussi à intercepter et à détruire deux des trois micro-véhicules aériens MAV utilisés par le régime israélien contre un complexe militaire à Isfahan. Il a dit que sur la base des premières enquêtes, le régime israélien était responsable de la tentative d'agression à Isfahan. La République islamique d'Iran se réserve le droit légitime et inhérent, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, de défendre sa sécurité nationale et de répondre résolument à toute menace ou action illicite du régime israélien, quand bon lui semblera, a-t-il ajouté. Il a souligné que les menaces d'Israël d'utiliser la force contre l'infrastructure critique de l'Iran, y compris ses installations nucléaires pacifiques, étaient une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, affirmant que le premier ministre du régime, Benjamin Netanyahou, avait admis l'implication de Tel Aviv dans des actes de sabotage et de terrorisme en Iran. Iravani a ajouté que l'attaque d'Isfahan n'était pas le premier cas où le régime israélien avait menacé d'utiliser la force ou avait commis des actes criminels et terroristes sur le territoire iranien. Soulignant les menaces fréquentes d'Israël et les nombreux actes de terrorisme et de sabotage contre les installations nucléaires pacifiques, les responsables, les scientifiques et les civils de l'Iran ces dernières années, il a déclaré que le régime avait ouvertement admis son implication dans ces crimes répréhensibles.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre équipe. Bonjour à Maître Develet.
Merci à vous. Justement, Maître Arnaud Develet, juriste international. Monsieur Develet, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et à Luc Michel, dont j'apprécie toujours les analyses.
Merci à vous, Monsieur Develet. Ma première question va s'adresser à vous, Maître Develet. Alors, l'Iran, bien sûr, met en garde Israël, et ce n'est pas la première fois, les menaces et des actions donc, de terrorisme à l'encontre de l'Iran et des ateliers militaires pacifiques de l'Iran. Donc, ce n'est pas chose nouvelle, elles sont extrêmement fréquentes. Et l'ironie, c'est qu'Israël admet donc son application dans ses actions.
Oui, ben écoutez, ce n'est pas surprenant venant de l'État sioniste, de toute façon, qui s'affranchit de toutes les conventions et de toutes les normes internationales, puisque le projet colonial sioniste fonctionne sur une forme d'exceptionnalisme. Ce qui explique pourquoi on a une belle synergie, j'allais dire idéologique presque, avec les faucons américains, hein, puisque chacun perçoit comment dirais-je, une application respective d'une forme de thérapie, des traités, des normes. Et qui n'hésite pas maintenant, puisqu'on a, on assiste maintenant depuis, on va dire, moins depuis février dernier, à une accélération, la reconfiguration géopolitique au sens large, de prendre au moins le soin de camoufler, ou en tout cas de produire des déclarations de bonne aloi, ou en tout cas de nier, ou de ne pas se prononcer, c'est souvent ce qu'ils font, Et là, maintenant, et surtout avec le retour de l'équipe Netanyahou et son cabinet d'extrémistes, là, je pense qu'ils ont décidé que c'était absolument pas nécessaire de ne serait-ce que garder le silence comme ils sont coutumiers du fait. Et d'ailleurs, maintenant, on s'aperçoit que suite à sa visite à Paris avec Emmanuel Macron, il est maintenant question d'une alliance tripartite États-Unis-France-État sioniste pour essayer de déclencher une opération conjointe contre la République islamique d'Iran. Donc, quelque part, c'est un processus lent, organique, qui est au moins avec l'idée que, en fait, les pourparlers sur l'accord sur le nucléaire n'était en fait que l'équivalent de l'Asie occidentale des accords de Minsk, à savoir une forme de ce que les Américains appellent plausible deniability, c'est-à-dire qu'on prétend négocier, on prétend mettre en avant un cadre diplomatique, rechercher une solution pacifique dans les intérêts de tout le monde, mais en fait derrière, il s'agit de gagner du temps et de préparer ce qu'ils adorent effectuer, à savoir le changement de régime. Ce n'est pas surprenant, il y a déjà 20 ans, lors de la période, la séquence qui a précédé l'invasion de l'Irak, les faucons américains étaient les premiers à dire à l'époque que les garçons vont à Bagdad et les hommes vont à Téhéran. Donc je crois qu'on arrive à ce stade maintenant.
D'accord. Luc Michel, comment on peut se permettre à cette époque donc, d'amener une action terroriste à l'encontre de l'Iran, une action de drone contre l'Iran, alors qu'ils savent très bien, vu la grande technologie militaire de l'Iran, de pouvoir déjouer donc cette action. Et par la suite, on saura très bien que c'était une action de la part d'Israël. Que pensez-vous?
Ces gens se croient tout permis. La constitution du gouvernement néo-fasciste israélien, elle ouvre la porte à toutes les aventures. Déjà l'année précédente, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, disait que toutes les options étaient sur la table si l'Iran ne renégociait pas les accords nucléaires. Toutes les options sur la table, cela veut dire les frappes militaires. Il y a depuis des relations durables qui ont été tissées entre ça, le CENTCOM américain et l'OTAN, qui ont des liaisons militaires ensemble. Et aujourd'hui, la presse américaine comme la presse israélienne reconnaît la validité des frappes et elle dit que les Téhéran doit s'habituer à cette nouvelle configuration. C'est purement scandaleux. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces gens sont prêts à une guerre mondiale pour arriver à leur résultat, comme on le voit en Ukraine.
Oui, monsieur Luc Michel, certains pays donc amènent des actions à l'encontre d'autres pays, mais Israël admet donc ouvertement que c'était une action menée par nous. C'est pas bizarre, ça?
Écoutez, moi je lis quotidiennement la presse israélienne. Ils disent textuellement que les Iraniens doivent s'habituer à de telles actions. C'est donc les reconnaître, évidemment. C'est un gouvernement extrémiste qui s'est constitué avec une majorité d'extrême droite, avec la droite religieuse, l'extrême droite sioniste, qui apparemment, avant, était dans la majorité anti-Netanyahou. Netanyahou doit donner des gages à ces gens pour conserver sa majorité. Et évidemment, son programme est exclusivement un programme anti-iranien.
Arnaud Develay, que pensez-vous? Autre réaction, je vous prie.
Écoutez, je m'inscris dans les propos de Michel. Netanyahou est connu et, si je veux dire, coutumier du fait, puisqu'il a lui-même instrumentalisé la tribune des Nations Unies, ça fait déjà 15 ans de cela, en essayant de si je puis dire, jouer un jeu d'alarmiste, en essayant de prendre un peu l'opinion publique pour des perdreaux, hein, avec ses pancartes. Donc, effectivement, alors, ce qu'il faut comprendre avec Netanyahou, en plus de ça, ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, en tant que tel, une forme de colonne vertébrale idéologique particulière. Si ce n'est que, bon, il est lié de par son père, qui était le secrétaire de Japotinsky. Donc, ce sont des gens qui privilégient les moyens plutôt que les fins. Et dans le cas de Netanyahou, qui est un homme vénal et corrompu au possible, et comme l'a souligné Luc Michel, il est prêt à toutes les combinaisons possibles. En cela, il est très doué, à savoir toujours retomber sur ses pieds, reconstituer de briques et de brocs une coalition qui lui permette, jusqu'à présent, et je crois que c'est d'ailleurs le premier ministre sioniste qui a servi le plus longtemps dans l'histoire du projet. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui est très cynique et qui n'hésite pas à s'allier avec des éléments les plus extrémistes. Je rappellerai qu'au sein de son cabinet actuel, on a des représentants de la mouvance de Merkahane. Merkahane, c'est le mouvement kahaniste, un mouvement religieux extrêmement violent, responsable pour la fusillade d'Hébron en février 1994, et dont le mouvement avait été déclaré organisation terroriste par le FBI suite à l'assassinat d'un pro-palestinien à Brooklyn en 1990, si je ne m'abuse. Donc on a un gouvernement sioniste qui, au sein de son cabinet, a intégré des représentants d'une organisation classée terroriste, non seulement aux États-Unis, mais je crois même, il fut un temps, dans l'État sioniste lui-même. Je ne sais pas quel est le statut de cette organisation en tant que telle à Tel Aviv, mais toujours est-il que ce sont des gens qui sont parfaitement connus pour avoir eux-mêmes été jusqu'à diaboliser à l'époque l'ancien Premier ministre Rabin, jusqu'à créer un climat de haine qui a vu un de leurs propres ouailles passer à l'action. Donc ce sont des gens qui ne reculent devant rien, qui sont habités par une forme d'eschatologie messianique et pour qui je pense que tout est bon, tous les moyens sont bons pour asseoir leur suprématie, et ça inclut bien sûr les actes d'agression contre votre pays, mais aussi certainement, on peut l'imaginer, l'usage d'armes stratégiques avec des génocides à la clé. C'est vraiment ce à quoi nous avons affaire en ce moment.
Tout à fait. Luc Michel, d'où est parti ce drone israélien, si ce n'est des bases américaines dans la région? Est-ce que derrière donc, ces attaques terroristes de la part d'Israël existent bien sûr des actions et des politiques américaines?
Mais écoutez, Israël, les États-Unis et l'OTAN travaillent main dans la main. Il y a eu l'année passée des manœuvres communes entre l'OTAN et SAAL, et aujourd'hui l'armée israélienne dispose d'un bureau de liaison permanent au sein de l'US qui se trouve aux États-Unis. Il n'y a donc pas de doute que les deux se complicent.
Oui. Maître de Volet, est-ce que vous pensez la même chose?
Oui, absolument. De toute évidence, c'est une surprise pour personne que les faucons américains et leurs collègues sionistes, de toute façon, travaillent main dans la main. Les sionistes ont des bureaux depuis longtemps au Pentagone. Ils vont les aller et venus pour coordonner les actions à travers non seulement la région d'Asie occidentale, mais dans d'autres contextes aussi. C'est, si je puis dire, un compact militaire qui existe depuis 1967, depuis l'avènement de Lyndon Johnson, qui n'a eu de cesse, au travers de cette espèce de baptême du feu, de l'attaque sous faux drapeau de l'USS Liberty, où l'administration américaine d'alors avait complètement joué la stratégie de l'édredon en étouffant l'affaire. Et on s'aperçoit que près de 50 ans plus tard maintenant, la fusion est pratiquement complète. Les agents, les espions du Mossad ont pénétré d'ailleurs les industries clés américaines, que ce soit Big Pharma ou que ce soit Silicon Valley. On rappellera à l'époque, suite au 11 septembre, l'industrie de surveillance et de sécurité qui avait émergé de ces événements avait immédiatement été investi par des compagnies israéliennes à telle enseigne que le marché était saturé à près de 93% des parts de marché par des entreprises basées en Israël et donc partant de là, de facto, liées au Mossad. Donc, si je puis dire, il est impossible de dépêtrer, de délier les deux États. On a pratiquement, au niveau de l'État profond, on a affaire à un État profond transnational ou en tout cas un compact militaire et corporatiste qui ne fait qu'un maintenant.
Absolument. Luc Michel, abordons, si vous voulez bien, un autre sujet concernant, bien sûr, ces attaques de drones. Alors, que cherche Israël dans ses actions? Car le monde sait que, est persuadé que les activités nucléaires iraniennes sont purement et simplement pacifiques et les ateliers militaires donc, observés par ces drones israéliens ne font qu'empirer les choses et cherchent par tous les moyens un faux pas de la part de la République islamique d'Iran de dire au monde entier que nous avions raison, que ces actions ne sont pas pacifiques. Que pensez-vous?
Moi, je pense que le but est recherché par les Américains, avant les Israéliens. Le contexte géopolitique a changé au Proche-Orient. Avant le 24 février 2022, on était dans la configuration d'un OTAN du Proche-Orient, avec les Israéliens, les Émiratis, les Qataris, les Saoudiens. Aujourd'hui, depuis le deuxième sommet des États producteurs du gaz à Doha, les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens sont du côté de l'Iran et du côté de la Russie dans la guerre du gaz. Dès lors, les Américains ont besoin d'une guerre pour ramener de leur côté les monarchies, pétromonarchies du Golfe. Actuellement, il n'y a plus que le Maroc qui soutient les États-Unis. C'est cela qu'il faut retenir. Je crois donc que le but d'obtenir une guerre n'est pas un but israélien, mais un but américain. Les Israéliens ont simplement obtenu un blanc-seing, ce qu'ils recherchaient depuis longtemps.
Maître Devollet, votre réaction, je vous prie.
Oui, je pense qu'il faut regarder la situation à travers du prisme d'une évolution, d'un déplacement du centre de gravité du monde. Donc de l'Occident avec son centre à Washington vers une multipolarité qui trouve son centre de gravité en Eurasie. Et de toute évidence, le conflit ukrainien a révélé tout cela et accéléré le processus, avec maintenant une accélération du processus non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. On assiste à des choses qui, il y a encore 15 mois, auraient été complètement incroyables à assister, hein. Et donc c'est une espèce de rébellion mondiale, une espèce de rébellion ouverte. Et je pense que la situation en Ukraine et les gains, alors certes, ça paraît modeste de loin, mais ils sont inexorables de la Fédération de Russie quand elle a neutralisé tout l'armement que l'OTAN parvient à envoyer sur le terrain. Il y a une espèce de pressentiment, une forme de frémissement qui se diffuse extrêmement rapidement au travers du globe, que l'hégémonie américaine est terminée et eux-mêmes sentent que la situation leur échappe. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la propagande, ils redoublent d'efforts pour censurer toutes les voix discordantes parce qu'ils sont sur la défensive. Et malheureusement, c'est ce qui rend la situation dangereuse parce que l'Ukraine n'est pas simplement l'épicentre de ce changement de paradigme en termes de l'émergence du monde multipolaire, mais c'est aussi et particulièrement à l'endroit où toute la classe politique américaine, peut-être même occidentale, a aussi des choses à se faire, à se reprocher. Il faut donc effacer les traces, si je puis dire. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que dans ce contexte-là, c'est un peu une guerre des clans, et le clan qui est en train de perdre se dit que s'ils ne peuvent pas conserver leurs avoirs, personne d'autre ne conservera ses avoirs. Et on peut penser qu'ils utiliseront dans ce sens la politique du jusqu'au boutisme, quitte à créer un incident nucléaire, une forme de terre brûlée, pour empêcher justement que la Fédération de Russie non seulement remporte la partie, mais aussi que leur crime soit exposé au grand jour. C'est moi, en ce qui me concerne, ma crainte sur le sujet.
Luc Michel, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Devollet?
Je suis tout à fait d'accord. Le bloc américain d'Occident est en train de perdre la partie, non seulement sur l'Ukraine, mais surtout sur l'Afrique. Je suis le cible d'une campagne de diffamation concernant l'Afrique et les États-Unis même. Et nous voyons ce qui se précise. Ces gens ont peur. Un expert français qui travaille pour l'armée française a déclaré que quand les généraux français, les diplomates du Quai d'Orsay voient la situation en Afrique, Ils disent, oh mon Dieu, ils sont en train de perdre la partie. Et donc la seule façon de rabattre les cartes, ce serait une guerre, éventuellement, avec l'utilisation d'armes nucléaires tactiques.
Bon, nous ne l'espérons pas en tout cas. Luc Michel, quant à la réaction de la République islamique d'Iran à ces attaques terroristes, l'Iran, dans le cadre, bien sûr, des chartes internationales, ils ont dit qu'ils allaient donc réagir fermement à ces actions de menaces de la part d'Israël et des États-Unis à l'encontre des installations pacifiques nucléaires. Que pensez-vous de ces réactions?
Écoutez, l'Iran comme la Russie, ce sont des dirigeants raisonnables, avec un État raisonnable. Ils jouent donc le jeu des relations internationales. Mais ils sont face à des fous furieux. Des gens comme Netanyahou, Biden ou Blinken, ce sont des fous furieux. Ils sont prêts à risquer une troisième guerre mondiale. Ils l'écrivent eux-mêmes. Le principal géopoliticien américain, George Friedman, l'ancien patron du TikTok de Stratford, il a écrit un livre qui s'intitule « Les 100 prochaines années » de Nelson Rettier. Il déclare directement, évidemment, qu'il est prêt à tenter un coup de banco géopolitique pour garder la direction des affaires mondiales. C'est à ces gens que nous sommes face à eux. Et malheureusement, il n'y a pas de contrepoids. Les Européens, ce sont des carpettes sur lesquelles les États-Unis s'essuient les pieds. On le voit encore à la visite de Netanyahou à Paris avec Macron. Ce sont des fous furieux, évidemment, qui sont prêts à mettre la paix mondiale en cause.
Maître de Volley, un dernier mot pour terminer quant à la réaction ferme de l'Iran à l'encontre de ces actes de terroristes.
Écoutez, la République islamique d'Iran, c'est parfaitement ce qu'elle a à faire. Elle est confrontée à cette situation depuis un certain temps maintenant. Et force est d'avouer que tout a été essayé et déployé contre sa souveraineté et qu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces tentatives ont échoué. Donc je pense que pour l'Iran, il s'agit bien sûr de rester dans le cadre légal qui lui est offert, à savoir, déposer des plaintes et en tout cas laisser, si je puis dire, comme on dit en anglais, un paper trail. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ces gens-là, de toute façon, s'assoient sur le droit international. Et la République islamique d'Iran doit s'appuyer sur ses forces armées, sur ses moyens balistiques et sur ses amis dans la région pour faire face et pallier à toute tentative, parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, je pense que ça va s'accentuer.
C'est exactement le cas. Maître Arnaud Develet, juriste international, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Luc Michel, géopoliticien qui nous a accompagnés depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
À bientôt.
Afrique économique. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous accorder votre temps pour suivre cette émission de l'Afrique Économie, une émission dans laquelle nous allons réviser les informations les plus importantes dans le domaine économique qui se sont déroulées durant la semaine passée sur le continent africain. Restez avec nous. Les frictions s'accroissent entre l'Empire du Milieu et les Occidentaux au sujet de la restructuration de la dette de la Zambie. Accusé d'être un obstacle à la résolution du problème, Pékin estime que la balle est plutôt dans le camp des institutions financières multilatérales et des créanciers privés. Le gouvernement chinois a appelé le 31 janvier les institutions financières multilatérales a participé au processus de restructuration de la dette de la Zambie, affirmant ainsi résolument sa position au sujet de l'épineux dossier du traitement des dettes des pays sous-développés. Les institutions multilatérales et les créanciers privés détiennent la majorité de la dette extérieure de la Zambie, soit respectivement 24% et 46%. La clé réside donc dans leur participation aux efforts d'allègement de cette dette, a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'une conférence de presse. Elle a aussi souligné l'importance qu'accorde son pays à la résolution du problème de la dette zambienne, indiquant que Pékin a joué un rôle constructif dans le traitement de la dette de ce pays au titre du cadre commun du G20. Il s'agit d'une initiative d'allègement pour les pays à faible revenu qui réunit les États membres du Club de Paris, les créanciers privés et la Chine. Mao Ning a d'autre part fait savoir que la coopération financière entre la Chine et l'Afrique a toujours été axée sur le renforcement de la capacité de ce continent à se développer de manière indépendante et durable, citant l'exemple de la centrale hydroélectrique zambienne de Kafou, Gorge et Lobar, qui a permis de réduire les émissions de carbone de 663 500 tonnes par an. L'appel lancé par la Chine pour l'implication des institutions financières multilatérales dans le processus d'allègement de la dette des pays en développement marque la détermination de Pékin à réformer le système mondial de restructuration de la dette souveraine qui a traditionnellement exclu les prêts décaissés par ces institutions. Il risque cependant de prolonger davantage les négociations sur le cas zambien. Réagissant aux déclarations du ministère chinois des Affaires étrangères, le président de la Banque mondiale, Navid Malpass, a rappelé qu'il n'existe aucun mécanisme permettant d'aller dans ce sens. En Côte d'Ivoire, l'anacarde est l'une des cultures enregistrant les meilleures performances dans le secteur agricole. Le dynamisme de la filière a déjà permis au pays d'être leader sur le plan de l'offre et les autorités entendent poursuivre les efforts durant cette saison. En Côte d'Ivoire, le prix bord champ pour le kilogramme de noix de cajou sera de 315 francs CFA pour le compte de la nouvelle campagne de commercialisation 2023. C'est ce qu'a annoncé Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le 3 février. Le montant annoncé représente une augmentation de 10 francs CFA par rapport au tarif de la saison précédente. Les autorités attendent une production en hausse de 3% cette saison à 1,05 million de tonnes contre un stock de 1,02 million de tonnes récolté un an plus tôt. Sur le segment transformation, les opérateurs prévoient de traiter 300 000 tonnes de la matière première. Ce total représenterait environ 28% de la production et un bond de 34% par rapport au volume de 224 036 tonnes de noix transformées au cours de la campagne précédente. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est le troisième transformeur et fournisseur mondial d'anacarde derrière le Vietnam et l'Inde. La nation éburnéenne ambitionne de parvenir à un taux de transformation de 50% de sa production d'ici 2025. L'Angola a mis en orbite son deuxième satellite de télécommunication en octobre 2022 en partenariat avec la Russie. L'infrastructure devrait contribuer au développement des télécoms, de l'agriculture et d'autres secteurs de l'économie angolaise. Le président angolais João Lourenço a autorisé par le décret présidentiel numéro 1123 la commercialisation d'Angosat 2, le deuxième satellite de télécommunication angolais. Après l'achèvement de sa phase d'essai, le décret émane d'un communiqué de presse publié la semaine dernière par l'Office national de gestion du programme spatial angolais. Il habilite le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale à superviser en tant que subdélégué le processus nécessaire à la gestion et à la commercialisation du satellite. conformément à la législation et à la réglementation prescrite. Le président a également inauguré un centre de contrôle de satellites à Luanda. La commercialisation d'EncoSat 2 débute environ 3 mois après sa mise en orbite. Sa construction est le fruit d'un accord signé en avril 2018 avec la Russie pour compenser la perte d'EncoSat 1, le premier satellite télécom angolais lancé en décembre 2017. Le projet a d'abord été confié à la société russe RSC Energia. Il lui a finalement été retiré sur demande des autorités angolaises, puis confié à Rechtenev Information Satellite System Company. L'autorisation de la commercialisation d'EncoSat 2 et l'inauguration du centre de contrôle des satellites s'inscrivent dans le cadre de la stratégie spatiale nationale de l'Angola. Le gouvernement ambitionne de mettre à profit la technologie spatiale pour améliorer la qualité et la couverture des services de télécommunication dans le pays. Par conséquent, d'autres investissements pour que nos télécommunications contribuent au développement du pays et des services de notre économie, et pas seulement de la société angolaise, continueront à être faits, a déclaré João Lourenço. Fin octobre 2022, un protocole d'accord avait été paraphé par la société nigériane du pétrole et la compagnie sud-coréenne Daewoo en vue de la remise en service de la raffinerie de Kaduna. Au Nigeria, la société publique chargée des hydrocarbures NNPC Ltd a signé jeudi 2 février un contrat d'une valeur de 741 millions de dollars avec le constructeur sud-coréen Daewoo pour réhabiliter la raffinerie de Kaduna. Il s'agit d'un accord juridiquement contraignant qui fait suite au mémorandum d'entente signé en octobre 2022. Entre les deux compagnies, selon les termes de l'accord, Daewoo rétablira la production de l'installation inopérante de 110 000 barils par jour à au moins 60% de ses capacités d'ici la fin de 2024, a indiqué la NNPC dans un communiqué. Globalement, l'entente est en lien avec un vaste plan du gouvernement visant à rendre opérationnelles les raffineries à l'arrêt du Nigeria. Une situation qui oblige l'État à dépenser des sommes importantes pour se faire livrer des produits pétroliers, sans pour autant réussir à résoudre le problème des pénuries devenues récurrentes dans le pays. Ces derniers mois, les autorités nigérianes ont ainsi recruté la compagnie italienne d'ingénierie pétrolière Mer Tecnimont SPA pour relancer les opérations de 2 autres raffineries du brut situées à Port Harcourt dans la région du delta du Niger. L'objectif du gouvernement à terme, c'est d'arriver grâce à la remise en service de ces infrastructures avec les raffineries du groupe Dangote qui devrait entrer en service cette année, à lever la subvention sur les produits pétroliers pesant sur le budget de l'État. En Namibie, IFAN annonce la signature de protocole d'accord sur l'ammoniac vert avec 2 groupes industriels. Le projet d'hydrogène vert de IFAN Hydrogen Energy continue de progresser en positionnant le pays comme un futur acteur majeur de ce produit vu comme le carburant de l'avenir. La société de développement de l'hydrogène vert, enregistrée en Namibie, IFAN, a annoncé le jeudi 2 février la signature de protocoles d'accord non contraignants avec 2 grandes entreprises industrielles, dont le sud-coréen Aprecium. Les accords stipulent que IFAN leur fournira jusqu'à 750 000 tonnes d'ammoniac vert par an. Ils font suite à un autre protocole d'accord récemment signé avec RW Supply and Trading, une multinationale allemande de services publics, pour la fourniture de 300 000 tonnes d'ammoniac vert par an à partir de 2027. La conclusion de ces accords avec des acteurs de premier plan dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie marque une nouvelle étape passionnante dans le parcours de IFEN pour exporter de l'hydrogène vert dans le monde entier, a déclaré Marco Raffinetti, PDG de IFEN Hydrogène Énergie. Bien que le pays ne soit pas le seul en Afrique à s'engager dans le développement de l'hydrogène vert, c'est bien lui qui en avance dans le domaine, sachant que la mise en service de la première phase du projet de IFEN devrait se faire à la fin de 2026.